Question d'islam par Ghal Ben Sheikh. Bonjour, et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui Mathieu Guider.
Bonjour.
Mathieu Guider, merci de nous faire l'amitié de venir. Aujourd'hui, nous parlerons d'islamisme, avec cette idée que chez les grammairiens, le suffixe « isme » étouffe toujours la racine. Alors il y a l'islam, nous verrons qu'est-ce que ça couvre ce vocable, et l'islamisme. Mais avec vous, l'islamisme est au pluriel. Et votre dernier ouvrage, c'est « La guerre des islamismes ». Nous essaierons de comprendre ensemble. Vous êtes professeur des universités, vous enseignez l'islamologie à l'Université Paris 8, et vous êtes bien entendu évidemment agrégé d'arabe et un fin connaisseur de toutes ces problématiques qui sont au centre d'enjeux nationaux et internationaux, qui sont cruciaux aussi, ces problèmes-là auxquels nous sommes tous confrontés. Alors, Mathieu Guider, pourquoi vous parlez des islamismes au pluriel ?
Alors, il faut d'abord peut-être commencer par distinguer, vous l'avez mentionné, la différence entre islam et islamisme. Je le dis d'ailleurs au tout début, l'islam c'est une religion, c'est la religion qui a plus de 14 siècles d'existence, qui est passée par différentes phases historiques, et donc c'est l'équivalent des autres religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme. Et puis vous avez depuis le début du XXe siècle l'apparition de ce isme, c'est-à-dire de ce qui indique l'idéologie que vous retrouvez dans communisme, que vous retrouvez dans capitalisme, dans socialisme, dans libéralisme. Ce suffixe indique le fait que lorsqu'un système de pensée et d'idées, de croyances, devient une idéologie politique, c'est-à-dire que lorsque est injectée dans la croyance une dose de politique, une dose d'idéologie, visant, par exemple, à changer la société. Et donc, l'islamisme, aujourd'hui, se définit. Le mot a évolué. Je rappelle que au début, on parlait d'islamisme comme on parlait de christianisme et de judaïsme. C'est-à-dire, c'était le mot qui est donné à la religion dans sa totalité. Mais depuis, globalement, la deuxième partie du XXe siècle, l'islamisme désigne l'utilisation, l'instrumentalisation politique de la religion musulmane par différents groupes, différents partis politiques qui veulent mettre la religion au centre de la politique. Alors le pluriel dans le titre de mon ouvrage, La guerre des islamismes, vient du fait que, comme l'islamisme aujourd'hui est un système de pensée idéologique qui utilise la religion, eh bien on constate sur le terrain différents usages, différentes instrumentalisations de cette religion, c'est-à-dire différents systèmes idéologiques qu'utilise l'islam. Comme on avait d'ailleurs différents systèmes idéologiques qui utilisent le communisme. Vous avez le trotskisme, le léninisme, le polpotisme et le castrisme, etc. C'était des variantes, globalement, du communisme et du marxisme, léninisme. Eh bien, aujourd'hui, on a à peu près la même situation de point de vue idéologique dans l'islam, entre différentes tendances de l'islamisme. C'est pour ça, c'est ce qui justifie le pluriel aujourd'hui.
Oui, Mathieu Guider, vous avez raison de revenir sur la généalogie, en tout cas, ou l'historique de l'évolution du mot. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, on parlait aussi de l'islamisme du même ordre comme on parlait du christianisme. Le génie du christianisme de Chateaubriand, nous le connaissons, et Ernest Renan parlait de l'islamisme. Dans certains cas, on parlait même du mahométanisme. Et puis, étonnamment, on passait à la religion de l'islam comme on parlait de la religion d'Israël ou les religions d'Inde. Et puis, le isme est venu, encore une fois, marquer l'instrumentation ou l'instrumentalisation ou la manipulation. Et vous avez à juste raison parlé d'idéologie. Dans toute la première partie de votre ouvrage, paru chez Folio, je le précise, « La guerre des islamismes », vous évoquez les guerres de religion comme une sorte de politisation ou d'idéologisation de la religion, en l'habillant d'une caution théologique. Mais en même temps, vous parlez aussi des guerres internes aux religions. Et donc, vous dites mutatis mutandis, on est dans la même situation, modulo 3 à 4 siècles.
Oui, alors je crois que d'abord il faut dire comparaison n'est pas raison, bien évidemment. C'est le parallèle que je fais très brièvement dans la préface du livre entre les guerres de religion du christianisme et de l'islam sont à visée didactique. C'est pour que l'on comprenne ce qui se passe, c'est à visée pédagogique. Mais disons globalement que à 5 siècles d'intervalle, puisque l'islam apparaît 5 siècles après le christianisme, eh bien on a l'impression aujourd'hui que l'islam, en tant que religion, vit à peu près la même situation de guerre de religion qu'a connu le christianisme au XVIe siècle. On se souvient avec cette confrontation généralisée entre les protestants et les catholiques, qui d'ailleurs a commencé en France. Je rappelle que les guerres de religion en France, il y en a eu 7, et se sont étalées de 1662 jusqu'à 1698. Nous parlons d'une guerre de religion en France qui a duré 36 ans. 36 ans, c'est la durée presque moyenne des guerres de religion. Une fois qu'on aura l'édit de Nantes, qui ne règle pas complètement la guerre de religion, mais qui la calme pendant quelque temps, avant que ne revienne la contre-réforme avec Louis XIV au XVIIe siècle, eh bien, cette guerre de religion va s'étendre tout au long du XVIIe siècle à toute l'Europe, et on va assister à ce que l'on appelle la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, c'est 1618-1648. Pendant 30 ans, eh bien, les nations européennes, à l'époque, vont se faire la guerre de façon terrifiante et qui vont aboutir à ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez l'Allemagne, l'Allemagne va avoir, à l'issue de cette guerre, le Nord, quasiment tout le Nord qui est protestant de tendance luthérienne, et puis le Sud qui va rester catholique. Puis vous allez avoir la Hollande qui est protestante, vous allez avoir la Suisse qui va sortir calviniste, protestante calviniste, et puis la France va être catholique plutôt de rite romain, l'Espagne va être catholique de rite latin. Eh bien, cette situation-là, on la constate quasiment de la même façon à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire avec une volonté de réforme très forte, avec un bouillonnement théologique, que l'on constate en particulier après le printemps arabe, et les confrontations théologiques qui existaient dans l'histoire déjà, on le sait à travers l'histoire notamment de la rivalité entre les sunnites et les chiites, qui remonte aux origines de l'islam, va, à partir de 2014, c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre, à partir de l'apparition de l'État islamique, de son affirmation sur la scène politique, géopolitique, et religieuse du monde musulman, eh bien, il va connaître une confrontation exceptionnelle. Il va généraliser, en réalité, l'esprit confessionnaliste et les confrontations, les luttes internes à l'islam, qui étaient auparavant circonscrites, pour ainsi dire, entre le sunnisme et le chiisme, et qui vont se généraliser à l'intérieur du sunnisme, à travers, en particulier, la lutte, la compétition, la rivalité entre le courant des frères musulmans chez le sunnisme, dans le sunnisme, et le courant salafisme à l'intérieur du sunnisme. Donc on va assister à toute cette confrontation qui se met en place avec des acteurs, avec des États en appui, avec des différents partis politiques qui vont se réclamer. Et c'est de cette rivalité, de cette compétition, que naît en réalité ce que nous connaissons aujourd'hui du monde musulman, c'est-à-dire l'anarchie, pour ainsi dire, et le bouillonnement que l'on voit aujourd'hui. Mais j'ai insisté sur cet aspect juste pour dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de la guerre et l'essentiel de la violence et des victimes n'est pas entre l'Occident et l'Orient. Il n'est pas entre les chrétiens et les musulmans. L'essentiel des victimes, l'essentiel de la violence, il est à l'intérieur de l'islam. Il est au sein de l'islam. Je donne des chiffres. Chaque semaine, il y a plus de 1000 morts. À l'intérieur, je ne parle même pas des blessés, il y a plus de 1000 morts à l'intérieur, c'est-à-dire des luttes entre musulmans, des luttes entre musulmans sunnites et musulmans chiites, des luttes entre des islamistes, des djihadistes qui sont dans la tendance d'Al-Qaïda, des djihadistes qui sont dans la tendance de Daesh. Vous avez des luttes internes à la fois à l'islam dans sa totalité, et puis interne au chiisme, et puis de l'autre côté, interne au sunnisme, sans oublier, bien évidemment, la lutte entre le courant soufi et les autres courants, les courants quiétistes, les courants plutôt de tendance piétiste, et les autres courants de tendance militante. Donc on est dans un bouillonnement exceptionnel, avec qui parfois fait des irruptions de violence, dont nous voyons les répercussions presque tous les jours.
Alors, c'est par un souci scrupuleux de ne pas vous interrompre dans votre lancée, cher Mathieu Guider, que je ne voulais pas vous reposer une question. Et vous avez anticipé sur la deuxième partie à propos de cette guerre interne au contexte islamique, AUX, même au pluriel. Je voudrais vous poser une question sur le fameux décalage de cinq, six siècles, un peu plus, entre le christianisme et l'islam. Est-ce que, je me fais l'écho de certains qui posent cette question, on est tenu de l'avoir, ce déphasage ou ce décalage, et donc on passe par les mêmes phases, ou est-ce qu'il y a une singularité islamique parce que pour certains, il y aurait eu un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, donc un apogée civilisationnel, et puis par la suite une régression. L'expert que vous êtes a un avis là-dessus, ou est-ce que les traditions religieuses ont des passages obligés dans le temps?
Alors, on ne peut pas nier l'humanisme islamique de ce qui correspond au Moyen-Âge en Occident, mais qui est l'âge d'or de l'islam. Il se situe, pour nos auditeurs, il se situe entre le 8e et le 10e siècle. C'est une époque extraordinaire où, paradoxalement, elle correspond à un courant religieux. C'est-à-dire que ce que l'on appelle l'humanisme arabe, l'humanisme musulman, et l'expression, on la doit à un grand penseur, Feu Mohamed Harkoun, qui a travaillé beaucoup sur ces questions-là, qui a démontré cet humanisme musulman, eh bien, elle correspond, cet humanisme-là correspond à une période où l'État musulman, où la structure de l'islam suivait un courant qui a quasiment disparu, en réalité, après, qui s'appelle le mu'tazilisme. Le mu'tazilisme, pour le traduire, c'est un courant rationaliste. C'est le courant, pour ainsi dire, le plus rationaliste.
Donnez, s'il vous plaît, l'étymologie du mot. Ceux qui se sont isolés, ceux qui se sont mis à l'écart.
Effectivement, les mu'tazilites sont le mot arabe mu'tazila, veut dire celui qui s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart, c'est-à-dire des disputes théologiques à l'intérieur. Et il a décidé globalement de s'en remettre à la raison dans l'exercice de la politique et dans l'examen de la foi. Ce sont des penseurs, des théologiens extrêmement en avance sur leur temps. Pour donner juste quelques positions, ce sont des penseurs tout de même qui pensaient que le Coran était créé. Et alors qu'à leur époque, tout le monde pensait que le Coran était incréé.
Donc interprétable, voilà, soumis à des contingences
tout à fait,
humaines, etc.
Et donc qu'on peut soumettre à l'interprétation, qu'on peut réformer, qu'on peut interpréter. Eh bien, l'humanisme musulman correspond à cette phase-là. Il correspond à la phase de l'islam qui est rationaliste. Cette phase-là, malheureusement, c'est une parenthèse qui se clôt globalement en 850 après Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un tournant où l'orthodoxie musulmane, où le traditionalisme va l'emporter. Et il faut attendre vraiment l'époque de la Renaissance au XIXe siècle pour voir réellement renaître une vraie pensée réformiste musulmane.
Oui, vous parlez du milieu du IXe siècle, 850, c'est ça. 5 ans plus tard, il y aura la mort d'Ahmed ibn Hanbal, le maître éponyme de la 4e école juridique. Mais c'est en tant que théologien qu'il a, en quelque sorte, assis, et même avec l'autorité politique, la doctrine ou le dogme du Coran incréé, qui était asphyxiant, ce dogme-là. Nous n'y couperons pas. Encore une fois, parce que votre éclairage est précieux pour nous tous, vous avez écrit, certes entre guillemets parfois et tantôt non, qu'il y a une guerre sainte dans l'univers théologique, voire polémologique islamique. Est-ce que la guerre est sanctifiée? Je ne dis pas que le combat n'est pas sacralisé, et on le voit bien avec ces histoires de djihad. Est-ce que c'est une sorte de transposition ou intrinsèquement il y a une sanctification de la guerre?
Alors, je réponds en même temps à votre question d'avant, à savoir sur le cycle des religions. Je crois que lorsque on le met en perspective, bien évidemment, chaque croyant ne regarde que sa religion. Et c'est un inconvénient, je crois, parce que si l'on croit au message divin, si l'on croit qu'il y a un seul Dieu, puisque là on est dans quand même l'épistémé du monothéisme, où tout le monde pense qu'il y a un seul Dieu, si tout le monde pense qu'il y a un seul Dieu, ben forcément c'est le même, qu'il s'appelle Jéhovah, qu'il s'appelle Jésus, ou qu'il s'appelle Allah, c'est à peu près le même.
Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité.
De la divinité. Et donc si on s'en situe dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans le contexte des monothéismes, je crois qu'il faut admettre qu'il y a un cycle des croyances religieuses. En tout cas, jusqu'à maintenant, lorsqu'on l'observe sur le long terme, on constate qu'il commence par une révolution au sens intellectuel, spirituel, culturel, qui instaure une religion à un moment donné, le judaïsme, le christianisme et puis l'islam. Et puis, cette religion connaît une expansion exceptionnelle la plupart du temps, avec des prises territoriales, avec une expansion territoriale, théologique, avec une production intellectuelle extraordinaire. Au bout d'un certain temps, on va l'évaluer à 5 siècles, on a l'apparition de divisions exceptionnelles, extraordinaires, du point de vue doctrinal, dogmatique, théologique, avec des disputes très graves dans le christianisme, on les connaît. C'est à chaque fois un concile très important qui va penser que, au sein du christianisme, la question de l'iconoclasme, c'est-à-dire la question de l'image, des images, a été changée plus de 5 fois dans le christianisme. C'est-à-dire le dogme de l'Église a été iconoclaste, et puis après il a été iconodule, puis après iconoclaste, iconodule, etc., pour arriver au dogme en 845, qui est de dire iconodule définitivement. Et donc on a une phase de dispute théologique qui, parfois, à travers des courants qui sont violents, aboutit à des guerres. Et toutes les religions ont connu de la violence. Ce que Girard appelle la violence du sacré, où vous avez des individus qui sont mus par une foi, par une croyance très forte, qui pensent que Dieu est avec eux, qu'ils ont la vérité et que la vérité est de leur côté. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire usage de la violence contre d'autres croyants qui sont généralement de leur propre camp, mais ça peut aussi s'étendre au camp externe. Et puis, à bout d'un certain temps, eh bien, ils constatent qu'il faut quand même vivre avec ces autres dans la diversité de la croyance, de la foi, et la religion a tendance à se séculariser, c'est-à-dire à rentrer dans le champ privé et dans l'espace privé. Je crois que l'islam ne peut pas faire l'abstraction de ce cycle-là qui est commun à toutes les religions. Simplement, il est aujourd'hui dans la phase de la diversification exceptionnelle, du bouillonnement exceptionnel des courants théologiques, de la réflexion, et il est surtout dans la phase de la violence du sacré, où chacun se revendique de cette sacralité islamique pour imposer son propre courant, pour imposer sa propre vue, et surtout pour fonder son propre État. Et on l'a vu, j'ai rappelé au début, que la quasi-totalité des États européens sont nés d'un courant théologique. Je donne l'exemple le plus flagrant, la Grande-Bretagne, l'Angleterre est née, son nom, les Anglicans, c'est un courant de l'Église qui va créer l'Angleterre. Et puis, pensez encore plus loin, c'est une secte à l'intérieur du courant anglican qu'on appelle les puritains, ceux qui voulaient purifier la religion, les Quakers, qui vont immigrer, qu'on va expulser d'ailleurs aux États-Unis, et qui vont être les fondateurs de ce qui aujourd'hui est les États-Unis d'Europe. Alors on dit en plaisantant que les États-Unis sont puritains, mais les gens oublient que c'est un courant religieux, c'est un courant théologique, doctrinal, dogmatique, qui a donné naissance à la première puissance mondiale aujourd'hui, à la plus grande démocratie mondiale aujourd'hui. Donc l'islam ne peut pas faire abstraction de ce cycle de la croyance, de cette évolution de la foi et de cette évolution de l'esprit humain, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il y a un changement des doctrines et des croyances. Pour répondre à la question sur la question de la violence sacrée, du djihad en particulier, ce que l'on constate, c'est que, comme toutes les religions, l'islam, à chaque fois qu'il a été menacé, il a fait appel au djihad. C'est-à-dire que la question du djihad n'a pas été, par exemple, au sommet pendant l'humanisme. Pendant l'âge d'or, elle a été quasiment oubliée. Il faut attendre. On voit ressurgir, bien sûr, au début de l'islam, il y a eu la question du djihad traditionnel. Et puis, elle va petit à petit s'affaiblir. Elle va ressurgir lorsqu'il va y avoir les invasions mongoles du monde musulman, c'est-à-dire vers le XIIIe siècle, en 1258, lorsque les Mongols envahissent le monde musulman, détruisent le califat à Bagdad et puis vont quasiment en finir puisqu'ils n'étaient pas musulmans. Eh bien, on va ressurgir avec des théologiens tels que Ibn Taymiyyah, ressurgir l'esprit du djihad. Et puis, il faut attendre quasiment le 19e siècle, pour voir également ressurgir l'esprit du djihad. Donc c'est une sacralisation du combat qui apparaît dans une religion à chaque fois que les croyants de cette religion se sentent menacés dans leur foi.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Mathieu Guider. Nous parlons aujourd'hui de ces conflits, au pluriel, entre les différents islamismes. Nous apprenons aujourd'hui qu'il n'y en a pas qu'un seul monolithique, mais qu'il y a différentes tendances, différentes idéologies dues à ces instrumentations ou ces instrumentalisations de la donne religieuse pour asseoir, pour certains, des États. Et nous en avons vu un avec le prétendu État islamique, ce califat de la terreur. Nous sommes avec Mathieu Guider, qui est professeur des universités. Il enseigne l'islamologie à l'université Paris 8, agrégé d'arabe, auteur essayiste, ayant produit et écrit plusieurs ouvrages relatifs à ces questions. Nous étions, Mathieu Guider, en train de parler donc du djihad, peut-être un peu d'étymologie pour nos auditeurs. Est-ce que c'est le combat sacré, la guerre sainte, ou est-ce que c'est un effort, mais qui a été détourné quand il s'agit d'un effort physique vers le fait de guerroyer? Et puis vous en donnez quelques occurrences que nos auditeurs savent désormais. Le combat majeur ou l'effort majeur salvateur chez les soufis, mais il y a aussi l'ijtihad qui est cet effort intellectuel, cérébral, mental.
Tout à fait. Le djihad vient d'une racine arabe jahada qui signifie l'effort, tout simplement. Et dès le début de l'islam, les trois aspects de cet effort sont mis en œuvre et sont promus. Vous avez d'abord l'effort, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une nouvelle religion, l'effort spirituel, c'est-à-dire la volonté d'amélioration de l'individu. L'individu veut être mieux moralement, il veut être pieux, il veut être dans la foi, dans l'adoration. C'est la dimension spirituelle du djihad que l'on va retrouver à plusieurs reprises et dont, jusqu'à aujourd'hui, elle est représentée par une tendance très importante de l'islam, un courant qui est le soufisme, qui est fondé sur cette affaire de l'effort spirituel. L'effort spirituel qui est bien évidemment tourné vers soi et dans la relation à Dieu, mais qui ne se soucie pas, absolument pas, des autres aspects des efforts, ni de la politique, ni des autres aspects de réforme. Et puis vous avez le deuxième effort qui est l'effort physique, à proprement parler, c'est le fait de travailler. Parce que dans toutes ces religions-là, le travail est une forme d'adoration de Dieu, c'est une forme de montrer à Dieu que l'on n'est pas oisif, que l'on n'est pas dans la luxure, que l'on n'est pas dans la perdition. Et cet effort personnel du travail bien fait bien évidemment, eh bien à l'époque c'était d'abord un effort physique puisqu'il fallait aller dans les champs, il fallait aller travailler avec ses bras, et cet effort-là va donner lieu également à des courants qui magnifient, qui font l'éloge du travail bien fait. Et puis enfin vous avez l'effort qui est un effort plutôt militaire, qui est un effort plutôt armé, de lutte armée, où on va avoir très rapidement deux aspects, soit ce que l'on appelle jihad ad-dafa, c'est-à-dire l'effort de défense, où la personne s'entraîne en quelque sorte pour se défendre contre les agressions extérieures, contre les invasions de ses terres, contre le rapt de ses enfants, de sa famille. Et puis vous avez aussi une tradition qui est ce qu'on appelle le jihad at-talab, qui est le jihad offensif, qui vise à propager dans un effort presque missionnaire, à propager la foi et la nouvelle religion. Ces trois dimensions-là, c'est-à-dire l'effort spirituel, le jihad, l'effort physique, le travail, et l'effort militaire, vont coexister mais avec à chaque fois des dominantes. C'est-à-dire, dans certaines époques, vous allez avoir l'effort spirituel qui va dominer. Dans d'autres, vous allez... L'effort spirituel, par exemple, le soufisme, va dominer le monde musulman du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Pendant 6 siècles, ça sera véritablement le véritable jihad. Et d'ailleurs, pendant tous ces siècles-là, on va l'appeler le grand jihad. Par rapport au petit jihad, c'est les mots sont employés par rapport à la tradition musulmane, qui serait le jihad de la lutte armée. Donc on a une évolution et on a une adaptation de cette théologie du jihad, de cette notion du jihad aux circonstances historiques, aux circonstances politiques, sociales de chaque époque, sachant que la dernière que nous avons connue dans le monde musulman, c'est l'effort intellectuel, c'est l'ijtihad. L'ijtihad, qui n'est pas le jihad. Vous voyez qu'il y a à l'intérieur du mot le mot jihad, mais qui est l'effort sur soi de réfléchir sur sa propre religion, sur sa foi, pour la réformer, pour qu'elle soit meilleure.
Merci infiniment, Mathieu Guider, de nous avoir présenté le jihad d'une manière aussi exhaustive, et les auditeurs vous en sauront gré. Nous avons compris qu'il y a d'abord un effort spirituel pour se maîtriser, combattre ses mauvais penchants, juguler ses passions et désirs, c'est le combat spirituel. L'effort physique, trimer, fagoter, moissonner, persévérer, travailler pour subsister. Et le travail est une adoration, je ne fais que restituer ce que vous dites. Et puis le fait de guerroyer, et là ça se subdivise en une sorte d'effort défensif. Et puis il y a ceux qui... pour agrandir, j'allais dire, l'Empire, et même dans cette approche quasi missionnaire, j'ai bien noté, c'est ce qu'il faut. Et à un moment donné, vous avez dit, c'est dans votre ouvrage, que les trois grands temps où cette notion du djihad défensif, probablement, ou peut-être même offensif, c'est à vous de le dire, c'était avec, lors des croisades, lors de l'invasion mongole, et notamment sous Hulagu, petit-fils de Genghis Khan ou Genghis Khan, en 1258, lors du sac de Bagdad. Et plus tard, Ibn Taymiyyah, mais ça vous allez nous l'expliquer davantage, théorisera cela. Et en même temps, mais juste avant, il y a la Reconquista en Andalousie. Toutes ces périodes et sur cette étendue vont donner lieu à presque à mettre en place une théorisation du combat dans la voie de Dieu.
Tout à fait. Alors, c'est là où j'insiste sur le fait que les concepts religieux deviennent des idéologies. C'est-à-dire que l'on passe de l'islam à l'islamisme, et là, on va passer du jihad au jihadisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le concept du jihad, que je viens d'expliquer avec ses trois dimensions, va, à l'occasion des crises que vous venez de mentionner, il va se transformer en idéologie. C'est-à-dire qu'il va se transformer en un système d'idées, c'est ça une idéologie, en un système d'idées visant l'action armée. Et il va se transformer en particulier, à partir du XIIIe siècle, sous la réflexion d'un savant musulman, d'un ulema musulman qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est un personnage très intéressant. Il est né à Damas, il a vécu à Damas, et puis...
En 1263.
Et puis il va vivre un événement exceptionnel pour la région, c'est l'invasion des Mongols, de tout d'ailleurs le Moyen-Orient, de l'Asie d'abord, d'une partie de l'Europe, et surtout de tout le Moyen-Orient. Et les Mongols prennent Damas, et donc il est obligé de fuir, il est chassé par les Mongols, et il se réfugie dans le seul état encore qui tient face aux Mongols, qui est l'Égypte. Il se réfugie au Caire, et il est protégé par, à l'époque, une dynastie naissante, qui sont les Mamelouks, qui sont des esclaves affranchis, qui vont prendre le pouvoir pendant plus de 2 siècles en Égypte. Et ce sont les Mamelouks qui vont arrêter, d'ailleurs, les Mongols, sinon l'islam disparaîtrait au XIIIe siècle. Eh bien, face à ce traumatisme de l'islam qui a failli disparaître au XIIIe siècle face à l'invasion mongole, que Ibn Taymiyyah va devenir théologien. Il va penser l'ensemble des concepts islamiques dans un mode offensif, dans un mode d'abord de militant, et qu'il va transformer le jihad en jihadisme, c'est-à-dire en idéologie. Son analyse est très intéressante parce qu'on lui a posé la question à l'époque, en tant que théologien, comment se fait-il que les musulmans qui ont eu l'islam, que Dieu a gratifié par le Coran, que Dieu a gratifié par une religion qui a dominé tout le sud de la Méditerranée, qui a dominé le monde à l'époque, qui était dominante avant l'arrivée des Mongols. Comment se fait-il ?
C'était un empire-monde.
c'était un empire monde qui va quand même du Pakistan quasiment jusqu'au Maroc. Eh bien, comment se fait-il que ces musulmans-là se font à ce point défaire, se font ratatiner, pour ainsi dire, par des mécréants en plus, puisque les Mongols n'étaient pas encore musulmans? Et sa réponse va être très intéressante. Il va dire les musulmans ont perdu la guerre, les musulmans sont en retard parce qu'ils ne suivent plus, ils se sont éloignés de la religion des origines, parce qu'ils se sont éloignés de la voie des salafs. Les salafs, ce sont les premiers musulmans.
Les pieux anciens.
Voilà, les pieux anciens. Et le mot salaf, qui signifie les pieux anciens, va créer un courant qui va avoir une destinée exceptionnelle, qui s'appelle le salafisme. Le salafisme va naître au XIIIe siècle en tant que système politique, idéologique, théologique, sous la plume de Ibn Taymiyyah. Il va avoir une descendance, une destinée exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, il est l'un des grands mouvements à la fois réformistes, politiques, théologiques, mais aussi militaires et armés dans le monde. Et c'est comme ça que l'on passe du jihad en tant que notion au jihadisme en tant qu'idéologie de combat.
Mathieu Guinière, d'une manière incidente, ce n'est pas le propre du sujet, mais vous avez dit dans vos développements ici, et le vôtre, les Mongols n'étaient pas encore musulmans. Et je ne m'étais pas empêché de penser à ce qu'on dit, à vous de le préciser ou pas, qu'il y a eu deux faits historiques majeurs. Ce sont les Romains qui, après avoir investi Athènes, repartent avec la civilisation et la mantique grecque, et l'art divinatoire est éblouis qu'ils étaient, et les Mongols qui vont repartir musulmans après avoir investi ou infesté ou envahi en tout cas ce qui est resté de l'Empire islamique. Vous avez parlé d'Ibn Taymiyyah, donc 1263-1328, avec son ardeur, son zèle, quasiment la fondation de ou l'instauration de cette idéologie dite djihadiste. Et après, il va y avoir plus tard quelqu'un, un protagoniste, dont le nom donnera lieu à un courant, et vous savez à quoi je pense, donc au wahhabisme. Alors, qui c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab? Un homme du XVIIIe siècle, une trajectoire de vie assez longue, 1703-1792, contemporain, nous ne l'oublions jamais, d'Emmanuel Kant, ailleurs.
Tout à fait. Alors, effectivement, il faut peut-être situer dans l'histoire de l'humanité. C'est très important d'avoir cela parce que je vous remercie de l'avoir situé, parce que les croyants, les fidèles de chaque religion, pensent l'histoire du monde à partir de leur religion. Malheureusement, ils ne voient pas l'histoire de l'humanité. Or, bien évidemment, chaque religion se situe elle-même dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, figurez-vous qu'au même moment où Kant fondait le rationalisme, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la raison esthétique, au même moment, vous aviez un penseur, un intellectuel, un théologien musulman, qui s'appelle Mohammed ibn al-Wahhab, en pleine Arabie, dans le désert d'Arabie, qui pense la réforme de l'islam. C'est-à-dire, il veut réformer l'islam, qui lui paraît, à l'époque, 4 siècles après Ibn Taymiyyah, 12 siècles quasiment après la fondation de l'islam, qui lui paraît complètement arriéré, qui lui paraît qu'il faut refaire. Et pour le refaire, il va adopter une théologie, un courant qui existe déjà, qui est le hanbalisme, mais dans sa version Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire dans la version salafiste. Donc il va s'instituer comme salafiste du point de vue doctrinal, et puis il va créer son propre courant, que l'on va appeler le wahhabisme. Mohammed Abd al-Wahhab était un théologien qui a été rejeté par sa tribu parce qu'il estimait qu'il était extrêmement radical et il ne voyait pas l'intérêt de changer de courant, de pratique religieuse. Qu'est-ce qu'il innove? Ibn Abd al-Wahhab innove sur un point en particulier qui distingue le wahhabisme, c'est le fait qu'il considère que toute personne qui fait appel à un intercesseur, à une médiation, par exemple à un saint, c'est-à-dire il va voir un saint ou il va voir un marabout ou autre, eh bien c'est un polythéiste pour lui. Ce n'est pas un vrai musulman et il va se distinguer. Les wahhabites au XVIIIe siècle, on est aussi à la même époque de la Révolution française, il faut le rappeler, eh bien il va se distinguer par la destruction de la quasi-totalité des mausolées d'Arabie qui il va considérer que ce ne sont pas du vrai islam. Eh bien, ce personnage-là va être chassé de sa tribu, il va être chassé de la région où elle est, il va se réfugier chez l'un des émirs, l'un des chefs tribaux de la région, qui s'appelle Ibn Saoud, à l'époque, très proche à Dar'iyah, dans un petit village, dans une petite oasis, juste à côté de l'actuelle capitale de l'Arabie saoudite, qui est Riyad. Eh bien, il va se réfugier, et c'est en cette alliance entre un chef tribal, Ibn Saoud, et un chef religieux, Ibn Abd al-Wahhab. L'un va donner sa fille à l'autre, il va y avoir une alliance matrimoniale qui va devenir une alliance politique. Eh bien, c'est ce courant-là qui va fonder le premier État saoudien au XVIIIe siècle et qui va propager les deux versants du salafisme, c'est-à-dire le salafisme traditionnel d'Ibn Taymiyyah et l'embranchement qui est le wahhabisme, qui va apparaître à ce moment-là et qui ne va pas résister d'ailleurs très longtemps puisque l'Empire ottoman va très rapidement reprendre le dessus en Arabie et va détruire cet État saoudien. Au XIXe siècle, il va y avoir encore une tentative d'alliance entre les wahhabites et Al-Saoud. Ils vont fonder un État qui va durer quelques décennies, mais qui va être détruit par le chef égyptien, le Mohamed Ali, le vice-roi d'Égypte. Et il faut attendre le XXe siècle, 1932, pour que Ibn Saoud, de nouveau, en utilisant les wahhabites, va conquérir le pouvoir, va unifier la péninsule arabique et va instaurer l'État saoudien que l'on connaît aujourd'hui, l'Arabie saoudite. Mais on est sur le même constat, c'est-à-dire la même idéologie, qui est celle de dire si les musulmans veulent se réformer, il faut qu'ils reviennent à la pratique des premiers musulmans à l'époque de Mahomet, comment vivaient les musulmans à l'époque de Mahomet. C'est ça l'idée qui est au fondement de ce courant religieux, mais qui, bien évidemment, pose aujourd'hui de grandes difficultés, de gros problèmes, puisque comment concilier la modernité avec la manière de vivre des premiers musulmans? C'est-à-dire comment vivre, pour transposer, juste pour que nos auditeurs comprennent, comment peut-on vivre comme Jésus-Christ au XXIe siècle? Eh bien, c'est exactement ce que pose le musulman. Comment peut-on vivre comme Mahomet au XXIe siècle ?
Mathieu Guider, dans ce développement, j'ai retenu deux aspects. Si, à juste raison, nous avons parlé d'Emmanuel Kant, qui est plus jeune que Mohamed Abdelwahab de 21 ans, c'est pour dire que l'un, lorsqu'il écrit « Comment lever les ambiguïtés » ou « Le livre des grands péchés » ou « Comment se rendre à la mosquée », l'autre, et vous l'avez souligné, écrit « La religion dans les limites de la raison ». Et le second point, c'est comment, petit à petit, va y avoir une collusion entre les données religieuses et la volonté politique d'instaurer un État ou un émirat en idéologisant ou en manipulant, encore une fois, les questions religieuses. Et petit à petit, nous avançons dans le temps. D'aucuns disent, Mathieu Guider, que même le mouvement de réforme à la charnière 19e-20e siècle s'est fait avec une raison religieuse soumise à la révélation, et c'est pour ça que ça n'avait pas porté. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et on voit pourquoi cet élan de foi, d'espérance, de volonté de moderniser ou de s'accrocher au train de la modernité, cet élan-là n'avait pas abouti.
Vous avez rappelé à juste titre que à partir du 18e siècle, on a globalement une tentative dans la civilisation occidentale, dans la culture européenne, on a une tentative de sécularisation, c'est-à-dire de séparation du politique et du religieux en philosophie, Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant, Schopenhauer. Enfin, vous avez une tentative de séparation du politique et du religieux. Au même moment, on a exactement la tentative inverse, c'est-à-dire une volonté de construire des États en fusionnant la religion et le politique. Ce qui fait que lorsque la réforme islamique intervient, elle intervient dans un contexte très particulier qui va faire que le même mouvement international, mondial à l'époque, qui était celui de la sécularisation, on pense au premier réformiste musulman. Pensez à Tartawi, le premier qui va passer à Paris 5 ans lors de la Révolution de Juillet.
Et qui écrira un bel ouvrage qu'on traduit en français par l'or de Paris, mais le titre arabe est très poétique avec des assonances.
Tout à fait. Eh bien, ce personnage-là, il était exactement sur la même lancée qu'Immanuel Kant. Il était exactement sur la même lancée des Lumières. Tous avaient l'esprit des Lumières en tête et tous voulaient relever cet esprit de Lumière, le diffuser. La plupart étaient saint-simoniens par la suite. Il y a une volonté d'éclairer le monde musulman. Le seul problème, c'est peut-être la malchance historique, c'est que ce mouvement de réforme arrive au moment du colonialisme. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où les pays musulmans se retrouvent de nouveau sous le joug étranger, se retrouvent de nouveau sous la domination des puissances occidentales, et en particulier à l'époque, sous la domination de la France en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et sous la domination de la Grande-Bretagne en Asie, en Arabie et en Asie. À partir de ce moment-là, le mouvement de réforme, qui n'était pas véritablement religieux à l'origine, va vouloir trouver les outils de mobilisation pour mobiliser pour la lutte contre cet envahisseur, contre ce colonisateur. Et il va y avoir une jonction entre l'esprit réformiste et l'esprit religieux. On va refaire vivre l'idée du djihad, on va la refaire remonter. Tout le monde va devenir des moudjahidines. Je rappelle juste que le premier moudjahid, c'est l'émir Abdelkader. On est juste après l'occupation de l'Algérie, la colonisation de l'Algérie. Et puis, vous avez, il appelle au djihad. Lorsqu'il est nommé chef des tribus, il appelle au djihad. Et puis, vous avez après tous les mouvements de libération, quasiment, qui vont s'appeler moudjahid d'une façon ou d'une autre. Même le Tunisien, Bourguiba, avocat de son État, formé à Paris, lorsqu'il va vouloir lutter contre la France, laïque séculier, peut-être le plus séculier des dirigeants arabes, eh bien même lui va prendre le titre officiel, après l'indépendance, de Al-Mujahid Al-Akbar, le plus grand Mujahid. Et vous avez
Le combattant suprême,
pour ainsi dire. Mais vous avez le mot dedans, de djihad. Et donc c'est cette jonction entre la lutte anticoloniale, la lutte pour la libération et l'esprit réformiste qui fera que les musulmans ne sortiront pas de cette dualité entre politique et religieux.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir Mathieu Guider qui nous éclaire sur ces conflits, ces frictions, et c'est un mot très euphémistique, entre les différentes tendances de l'islamisme, ou les islamismes au pluriel. Et dans cette dernière partie que nous abordons, en ayant souligné que, si j'ai bien compris, Mathieu Guider, ce que vous nous avez enseigné là, et vous-même vous enseignez à l'Université Paris 8 l'islamologie tout en étant agrégé d'arabe, et donc c'est aux professeurs des universités que je m'adresse, donc l'idée de la réforme n'a pas abouti parce que le contexte n'était pas favorable. N'oublions pas que l'Algérie, qui était territoire français, eh bien sur ce territoire-là, la loi de 1905 de séparation n'était pas appliquée, étonnamment. Pour cette dernière partie, Mathieu Guider, comment voyez-vous la sortie de crise? Ça va connaître un paroxysme, comme on dit, une crise, et elle se dénouera, ou est-ce que il y a lieu de s'en sortir par prendre à bras le corps les questions de raison, de réflexion, de pensée à l'intérieur des considérations théologiques et philosophiques islamiques, où il y a aussi un grand chantier de démocratisation où les deux doivent aller de pair.
Nous sommes dans un moment très délicat pour l'histoire du monde musulman en général et du monde arabe en particulier. C'est un tournant. C'est un tournant pour ces sociétés-là. C'est un tournant qui dépendra véritablement du contexte à la fois interne et externe. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai essayé de rappeler que le contexte externe a toujours influencé sur le contexte interne. C'est-à-dire ces sociétés, à chaque fois qu'elles se sont senties menacées, à chaque fois en particulier que la religion à l'intérieur de ces sociétés a été menacée par des interventions étrangères, en particulier par des interventions militaires, eh bien la société a eu tendance à réagir en ressortant des placards le concept du djihad, en ressortant la lutte armée, et donc une violence et beaucoup de sang qui a été versé. Aujourd'hui, le monde musulman vit une période où il y a ces deux aspects-là. C'est-à-dire vous avez d'un côté un bouillonnement intellectuel, une volonté et une compétition entre les différents courants théologiques, réformistes, intellectuels, qui veulent sortir de cette d'abord de la jonction entre le politique et le religieux. Il y a une vraie réflexion, y compris chez les religieux. Regardez ce qui s'est passé dans le parti Ennahda en Tunisie. Y compris chez les islamistes, il y a une véritable réflexion sur le fait de dire est-ce qu'il faut une théocratie ou non. Et puis, vous avez le deuxième versant, qui est le versant de la violence. La violence, c'est-à-dire comment sortir de la violence. Cette violence aujourd'hui est entretenue à l'intérieur du monde musulman, à la fois par les compétitions internes entre les différents courants, mais aussi elle est entretenue par les interventions militaires étrangères, paradoxalement, puisque à chaque fois qu'on fait une intervention militaire dans le monde musulman, on suscite à l'intérieur de cette société les plus radicaux qui vont prendre les armes et qui vont s'ériger comme les défenseurs, comme ceux qui luttent pour la religion, comme les moudjahidines, pour ainsi dire, et ceux qui défendent la communauté. Et par conséquent, il y a d'abord un argument externe, peut-être duquel dépendra la société, c'est quel est l'avenir des interventions militaires dans le monde musulman. On sait pertinemment que plus les interventions militaires dans le monde musulman, je dis bien les interventions militaires étrangères, je ne parle pas du fait de régler le problème en interne entre pays musulmans ou entre pays arabes. Les interventions militaires étrangères ont tendance, c'est la leçon de l'histoire, ont tendance à créer des groupes djihadistes, c'est-à-dire de lutte armée, qui se proclament comme les défenseurs de la religion musulmane. Et ce n'est pas récent, ça remonte très loin dans l'histoire. Et puis vous avez le deuxième aspect, c'est celui du combat, de la lutte intellectuelle, idéologique. Sur ce plan-là, on a aujourd'hui un devoir de soutien à tous les gens très courageux. Je crois que quelqu'un qui vit dans la société française ou dans la société européenne n'imagine pas à quel point aujourd'hui il est dangereux de parler du Coran de façon libre dans un pays musulman, ou de quel point il est vraiment risqué de se frotter à ces questions théologiques, intellectuelles, qu'aujourd'hui on discute de façon tout à fait neutre et libre, parce que nous sommes dans un pays libre, dans un pays démocratique. Eh bien, dans les pays qui ne sont pas libres, qui ne sont pas démocratiques, où il y a encore, en plus, des groupes armés violents, c'est très difficile de penser librement. Vous avez des personnes qui risquent leur vie pour réformer l'islam, qui risquent leur vie tous les jours, pour même dire certaines choses que l'on n'oserait même pas dire. Eh bien, on a un devoir de soutien à ces personnes-là, c'est-à-dire un devoir de soutien intellectuel, comme cela s'est passé lors des Lumières. On a soutenu à peu près tous les intellectuels qui voulaient diffuser l'esprit de lumière, que l'on pense à toutes les missions, à toutes les entreprises de civilisation, pour ainsi dire, sans pour autant occuper ou coloniser les esprits. Et donc, moi, je suis assez positif, en réalité, malgré l'effusion de sang, malgré la violence. Simplement, cela ne va pas se passer du jour au lendemain. Il est là le problème. C'est qu'on sait que lorsqu'une guerre interne à une religion éclate, elle a un cycle de 30 ans à peu près, c'est-à-dire une génération. Il y a une génération qui est perdue, une génération qui subit les affres de la guerre pour qu'elle comprenne que la solution ne peut pas être dans la violence. Cette génération va la subir, va la comprendre, et ainsi elle va arriver au compromis, c'est-à-dire à accepter que l'autre puisse vivre sa foi comme il l'entend, accepter qu'il n'y a pas d'un côté les vrais et d'un autre les faux, d'un côté les mécréants et d'un autre les fidèles, qu'on peut vivre sa foi de différentes façons. Cela prendra une génération, mais cela arrivera tôt ou tard.
C'est-à-dire qu'on se rendra compte, à supposer qu'on puisse être lucide à ce point, mais là je parle des hommes d'une manière générale, qu'il n'y a pas une efficacité à la violence et de surcroît qu'elle ne puisse pas être commanditée par la transcendance. Convoquer des phalanges angéliques ou des puissances célestes pour venir assister les armées terrestres, c'est de l'archaïsme. Donc la modernité intellectuelle passe aussi par ça. J'étais très sensible à vos préconisations, à votre solidarité pour les intellectuels musulmans qui vivent in situ sur la brèche. Et c'est vrai que nous avons ce devoir de solidarité, nous qui parlons librement sous un ciel un peu plus clément au-dessus de notre tête. D'ailleurs, chez nous, en France et en Europe, comment voyez-vous l'articulation entre l'activisme à la fois politique, pour des considérations sociales ou de repli de type identitaire, et ce qu'on appelle, ce mot valise désormais, au mot poison même pour certains, de la radicalisation religieuse?
Alors, nous avons la chance, vous l'avez rappelé, nous avons la chance de vivre dans une démocratie libre où le culte est permis, tous les cultes sont permis, où la loi est garante de la neutralité de ces cultes. C'est une chance exceptionnelle. Et donc, pour moi, la première chose, c'est une œuvre de conscientisation. Conscientisation, c'est-à-dire que les musulmans de France, comme les autres confessions d'ailleurs, doivent avoir conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir vivre leur foi sans qu'on les empête et de pouvoir être protégés sans que personne ne vienne transporter, d'ailleurs, exporter cette guerre de religion ici même, sans qu'il y ait cette guerre civile dans chaque pays musulman qui soit transposée sur le territoire national. Donc je suis pour une œuvre de pédagogie, d'explication déjà de la chance qu'ont les musulmans de France de vivre dans un système qui permet, que l'on appelle la laïcité, si vous voulez, pour aller vite, mais qui permet justement l'expression et la pratique de sa propre foi. Ensuite, nous avons une autre chance, c'est que le peuple français vient de se prononcer de façon très majoritaire pour un président qui n'est ni xénophobe, ni raciste, et qui n'a pas une approche paranoïaque, une approche hystérique du fait religieux, qui a une approche distanciée du fait religieux, qui sait situer le fait religieux dans son espace-temps. C'est une chance que nous avons, que nous devons utiliser pour justement, remettre le fait religieux dans son contexte historique, social, politique. En faisant cela, nous éviterions les instrumentalisations du religieux, à la fois nous éviterons les stigmatisations, nous éviterons les clivages de la société française. Tous les citoyens, tout le monde est citoyen. Vous remarquerez que je termine mon livre sur un appel à faire attention à ce que j'appelle le confessionnalisme sémantique. Confessionnalisme sémantique, c'est-à-dire éviter de désigner les individus qui sont des citoyens comme les autres par leur identité religieuse, de leur coller une identité religieuse et de dire par exemple les juifs de France, les musulmans de France et pourquoi pas les catholiques de France, les protestants de France et les bouddhistes de France.
Ou les athées de France.
Ou les athées de France.
C'est-à-dire qu'on ne doit pas confessionnaliser en ethnicisant, il s'agit de citoyenneté avant tout.
Exactement. Et ça, malheureusement, cette confessionnalisation s'est immiscée dans le débat public. Vous avez même des hommes politiques de premier ordre jusqu'à cette année qui avaient une utilisation confessionnaliste, qui désignaient les citoyens par des confessions. Cela est tout à fait nouveau et il faut absolument l'éviter parce qu'à partir du moment où vous accolez une identité religieuse, confessionnelle à un citoyen, vous le sortez de la communauté nationale, qu'il le veuille ou non, il doit soit se positionner par rapport à cette identité confessionnelle en la rejetant, soit en l'adoptant. Et du coup, vous le faites rentrer dans un processus de radicalisation. La radicalisation aujourd'hui est née essentiellement le fait de jeter une identité religieuse à la figure des autres. Que ce soit du côté musulman ou ils pourraient percevoir les Français comme des chrétiens, ou que ce soit des chrétiens, des Français, qui pourraient percevoir les citoyens d'origine arabe ou musulmane, peu importe, comme des musulmans. C'est cette confrontation d'identité confessionnelle qui risque de nous amener vers la radicalisation, vers les actions violentes et au final vers la guerre interne, vers la guerre de religion. Et donc j'appelle à être très sensible, à être très conscient des mots. Les mots ont un poids, les mots touchent, les mots blessent, les mots peuvent guérir, certes, mais les mots peuvent aussi blesser et peuvent parfois conduire à la mort et à la radicalisation, d'où notre devoir en tant qu'intellectuel, en tant qu'éducateur. Je ne fais que ça, expliquer à l'université. J'enseigne dans une université, dans un département où il y a beaucoup de personnes, des Françaises, des citoyens français, mais qui sont de confession musulmane. Eh bien, j'essaie d'expliquer tout ce que je viens de dire. J'essaie de rendre conscient de tous ces enjeux-là qui sont nos enjeux de culture, de société. La société française est une société qui permet le vivre en commun aujourd'hui et il faut absolument préserver ce vivre en commun.
Merci infiniment Mathieu Guider. Une bonne parole, c'est comme un arbre bien planté portant haut ses ramures, alors qu'une mauvaise parole, c'est ce même arbre planté à l'envers et assurément il est enclin à la pourriture. Je ne fais rien d'autre que de paraphraser une parabole coranique. Ici, dans cette émission Questions d'Islam sur France Culture, je rappelle votre livre qui nous a servi comme base de discussion ce matin, Mathieu Guider, La guerre des islamismes, paru chez Folio. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. Aujourd'hui, la prise de son a été assurée par Jean-Richard Dufour et la réalisation est toujours assumée et assurée par l'ami Franck Lilin. Tout le monde m'a...
tarihinde olayım, bunlar ola atan Beceriş çarayım, boruyum, bunlar ola atan Yasın kıpayadan da mutlum boru Teyzeci mungudur o teyzeci kımalı teyze
Thank you.